Bienvenue dans le podcast Comment tu fais ? Comment vous faites ? Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans les étoiles. Ou plutôt dans une constellation, celle de l'homme étoilé. Constellation, c'est le dernier album que l'homme étoilé... Bonjour monsieur l'homme étoilé, je dois dire monsieur l'étoilé, je dois dire l'homme...
Xavier en général, tout simplement.
Xavier. Ouais. Vous publiez cet album Constellation aux éditions Le Lombard. Il s'agit d'un ensemble de scénettes, de récits, qui sont votre parcours au quotidien dans un centre de soins palliatifs.
Service ou unité de soins palliatifs.
Depuis combien de temps vous pratiquez ce métier ?
Ça fait 15 ans que je suis diplômé, donc infirmier. Et dans ma carrière, j'ai surfé un petit peu entre les soins palliatifs et l'oncologie, hématologie, la discipline qui traite toutes les maladies du sang. Donc j'ai toujours été au contact de près ou de loin avec les soins palliatifs.
Constellation, vous l'avez construit sous la forme de petites scénettes. Ce sont parfois des récits de 2 pages, d'autres beaucoup plus longs. C'est une forme de témoignage. Vous vous sentez l'envie de porter la parole de ce qui se passe à l'intérieur des unités de soins palliatifs ?
J'avais surtout envie de juste de raconter ces rencontres humaines. Et on ne m'autorisait pas à les raconter parce que quand je dis aux gens que je suis infirmier en soins palliatifs, je sens les gens désolés pour moi, comme si j'étais puni d'être dans ce service. Et moi, au contraire, j'y vivais des moments d'une grande richesse, d'une humanité bouleversante. Et j'avais envie de raconter ça, j'avais envie de partager ça. Je l'ai fait pour 2 raisons. La première, simplement, comme un album photo dans lequel je puisse revenir quand j'en ressens le besoin. Quand on perd un proche, on a toujours un petit objet auquel retourner pour se rappeler de lui, une photo, une vidéo, n'importe quoi, un t-shirt. Moi, quand je perds un patient, il reste plus rien à part mes souvenirs. Et figer ces souvenirs sur le papier, c'était une manière d'offrir cette petite part d'éternité à ces moments qui ont compté pour moi durant ma carrière. Et puis après, je me suis rendu compte que ça pouvait aussi avoir vocation à parler des soins palliatifs avec un peu plus de justesse et de justice, puisque ce sont des services qu'on conçoit toujours à tort comme sinistres, anxieux, très sombres. Et c'était pas le constat que j'y faisais au quotidien en tant qu'infirmier.
On peut peut-être commencer par préciser, soins palliatifs, qu'est-ce que ça implique exactement ?
Les soins palliatifs sont les soins qui s'adressent à toutes les personnes qui sont atteintes d'une maladie grave ou incurable. Ce sont des soins qui ne vont plus agir sur la maladie, mais sur tout ce qui entoure la maladie. Tous les effets secondaires des traitements qui visent à améliorer le confort, on va dire, du patient atteint de cette maladie. Et toutes les séquelles aussi de cette maladie. Donc, ce sont des soins de confort, en fait, ni plus ni moins. On va agir sur tout ce qui est source de souffrance physique, psychique, mais même sociale et spirituelle.
Ça implique de prendre en considération la douleur en premier lieu ?
En fait, c'est plus une prise en charge globale, c'est-à-dire qu'on prend en charge une personne dans tout ce qu'elle est, fondamentalement. On ne se concentre pas que sur la douleur physique, mais aussi sur la souffrance morale, parce qu'on sait que les deux sont étroitement liés et que l'une peut majorer l'autre ou induire l'autre. Donc, c'est vraiment une prise en charge de l'être humain dans tout ce qu'il est.
C'est amusant, vous avez l'un des personnages. J'imagine que les prénoms sont changés à chaque fois que vous évoquez l'un ou l'autre des patients avec lesquels vous avez été en contact. Il y a France, qui est l'une des plus merveilleuses, qui vous explique un beau jour « je ne souffre pas » et cette absence de souffrance me pose problème. On est effectivement dans cette ambivalence entre la douleur physique, la douleur morale.
France, c'est une patiente qui n'a jamais connu les hôpitaux. Elle n'est jamais tombée malade. Et elle arrive dans mon service quelques jours ou quelques semaines après l'annonce d'une maladie incurable, pour laquelle les traitements ne sont même pas envisagés, parce que la maladie est incontrôlable. Elle s'inquiète de ne pas souffrir, parce que France est très pieuse, et elle se demande si finalement la maladie n'est pas une épreuve que Dieu met sur son chemin, et qu'en acceptant de ne pas souffrir cette épreuve, elle ne lui porterait pas offense. Et ce dont elle ne se rend pas compte à ce moment-là, c'est qu'en fait, cette absence de souffrance physique génère une souffrance morale. Donc oui, c'est vraiment ça qu'en fait, cette prise en charge qui flirte un petit peu avec la psychologie aussi, hein, le soin relationnel, la relation d'aide, est une prise en charge vraiment de la personne dans sa globalité.
Je vais plonger un peu plus dans le livre, dans la bande dessinée. Il en ressort une couleur bleue. Récemment, un libraire m'a dit à quel point ce bleu l'a fasciné. J'avoue que moi-même, cette couleur avait quelque chose d'une couleur venue du ciel. Mais la réalité est que ce bleu, vous l'avez plus ou moins choisi et que le travail de la couleur n'est pas spécialement votre tasse de thé.
Non, c'est même très compliqué parce que j'ai un petit problème d'acuité visuelle qui fait que je perçois pas bien toutes les nuances de couleurs et qui me rend la tâche vraiment compliquée quand il s'agit de passer à la couleur. C'est pour ça qu'à la base, j'ai travaillé en monochromie. Après, le choix du bleu, c'est un choix qui était assez évident, que j'ai pas tellement réfléchi. Je me souviens quand j'ai fait mes premiers stages à l'hôpital, j'ai fait mes stages dans un hôpital dans lequel ils avaient eu le bon goût de mettre un thème de couleur par service. Donc on avait des murs rouges en cardiologie, on avait, c'est pas une blague, des murs jaunes en urologie, des murs marrons en chirurgie digestive. Et bon voilà, là c'était un petit peu la faute de goût, il faut revoir le mec qui a mis ça en place.
Le code couleur pose un peu problème en effet.
C'est ça. Mais le premier service dans lequel j'ai été amené à faire un stage, c'était un service de pneumologie où les murs étaient bleu clair. Et j'ai trouvé que cette ambiance était extrêmement apaisante. Ça plongeait le service dans une forme de quiétude, de calme, qui me convenait vraiment bien. Et c'est par la suite, en fait, en faisant des stages dans d'autres services, que je me suis rendu compte à quel point la couleur des murs, de l'environnement dans lequel se trouvent les patients, peut aussi finalement impacter leur sentiment de bien-être, tout simplement. Mais j'étais tellement bien dans ce service de pneumologie, ce bleu m'a tellement marqué que je voulais quand même mettre un petit peu de couleur dans mes bandes dessinées, et donc instinctivement j'ai choisi celle-là.
Vous arrivez à naviguer entre la farce un peu burlesque, entre la situation cocasse, des choses d'une très grande profondeur, d'une très grande humanité, ou des moments de poésie. J'insiste sur la toute dernière scénette que vous proposez, qui est stupéfiante de poésie, de magie et d'humanisme. Les choix d'histoire, comment est-ce que vous les opérez? On imagine bien que vous avez dû en voir des vertes et des pas mûres, si je peux me permettre de rebondir sur les couleurs.
Le vert, ça n'aurait pas été une belle couleur, effectivement.
Non, pas du tout.
J'essaye de l'envisager, d'envisager chaque album comme un espèce de diaporama de toutes les émotions qui peuvent parcourir un service de soins palliatifs. Bien sûr, il y a des rires, mais des rires, ça ne fait pas une longue histoire. Enfin, on ne passe pas des jours et des semaines à rire avec un patient en continu. Donc souvent, les rires, je les inclus dans des petites scénettes qui viennent vraiment ventiler des récits plus longs, souvent plus émouvants, plus bouleversants, plus durs aussi parfois. Mais le but, c'était de donner un aperçu fidèle de tout ce qu'on peut vivre dans un service de soins palliatifs. Nous, on a à cœur de dire en soins palliatifs que nos services sont des lieux de vie. Et dans ces lieux de vie, on a tout un panel d'émotions très large qui s'expriment. C'est pour ça, en fait, que j'ai à cœur d'y mettre autant de moments émouvants, bouleversants, durs, que de moments drôles, parce qu'il y a beaucoup de moments drôles aussi.
Vous en provoquez des rires, en tout cas. On va revenir sur la toute première histoire qui ouvre l'album. Elle est intéressante parce que vous avez souhaité mettre un contexte en abordant une histoire qui est devenue depuis une légende urbaine. On vous a demandé, roulement de tambour pour le suspense, de raser les sourcils d'une patiente.
Alors, j'étais dans un service d'oncologie en troisième année d'études, bientôt diplômé. Et dernier jour de stage, on admet la fille de la chef du bloc opératoire pour une intervention de blépharoplastie. Donc, la blépharoplastie, c'est une intervention qui vise à corriger les cernes sous les yeux. Sauf que voilà, elle est en oncologie, et en oncologie, on n'a pas l'habitude de préparer des patients pour ce type d'intervention, mais il n'y a plus d'autres lits pour l'accueillir dans l'hôpital, donc elle atterrit dans ce service. Au matin de l'intervention, la chef du service, donc d'oncologie, insiste sur le fait que c'est quand même la fille de la chef du bloc, et que donc il faut d'autant plus en prendre soin. Elle quitte le service pour s'en aller à sa réunion, et en quittant le service, elle nous lâche un petit trait d'humour. Alors, t'es pas très douée en humour. Hein. Elle nous dit, et n'oubliez pas de lui raser les sourcils pour le chant opératoire. Et à ce moment-là, un vent de doute parcourt le service. Moi, j'ai le sentiment que c'est un trait d'humour, mais je suis pas sûr. Mais par contre, l'infirmier qui travaille avec moi ce matin-là, lui, est convaincu que c'est pas du tout de l'humour. On essaye quand même de s'assurer qu'on va pas faire une boulette, mais lui est convaincu qu'en fait, c'est ce qu'on doit faire. Et donc, oui, on finit par raser les sourcils de cette patiente. Et bah, ça finit en carnage, forcément, parce qu'on se fait engueuler comme du pu, parce que c'est une erreur stupide. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, cette histoire, je l'avais déjà partagée sur Instagram il y a plusieurs années. Un jour, une lectrice m'a écrit en me disant qu'elle avait déjà entendu parler de cette histoire dans l'hôpital dans lequel elle travaillait. Ça s'est passé dans un hôpital de Bruxelles. Et qu'elle pensait même reconnaître l'infirmier en question que j'avais dessiné. Donc elle allait lui faire lire cette histoire, et ben il en a ri. Heureusement, aujourd'hui, on en rit. Mais elle m'a dit, en fait, avec humour, que ça faisait partie de ces petites histoires qu'on se raconte à l'occasion et qui sont devenues une espèce de rumeur, comme ça, au sein de cet hôpital. Donc oui, c'est une histoire absurde, c'est un des plus grands moments de solitude de ma carrière. Je me suis senti particulièrement stupide et idiot ce jour-là. Et je trouvais que c'était bien de commencer Constellation par ce récit. C'est le plus léger, c'est le plus direct, le plus efficace. Et en même temps, ça montre aussi finalement cette préoccupation que je peux avoir de l'autre, de la personne que je soigne, même si ça n'a pas abouti à un franc succès. Mais...
À force de choyer la vie en côtoyant la mort, nécessairement, on en arrive à s'interroger sur les problématiques concernant l'euthanasie.
Ça m'interroge, bien sûr. J'y suis confronté, oui, évidemment, parce que on reçoit beaucoup de patients qui sont demandeurs d'euthanasie. D'une part, parce qu'il reste dans l'esprit des Français une sorte de confusion entre sédation et euthanasie. On a le sentiment que la sédation...
Peut-être vous pouvez opérer une distinction, justement, préciser ces termes.
Oui, bien sûr. La sédation, c'est un sommeil chimique, un sommeil provoqué par des médicaments, donc des sédatifs. Et cette sédation, elle est mise en place à la demande du patient. Elle peut être proposée éventuellement par le médecin. Quand on n'arrive plus à soulager la personne avec les traitements en cours, que ce soit des traitements contre la douleur ou contre la souffrance morale, encore une fois, cette sédation, elle est mise en place dans un contexte de maladie incurable avec un pronostic vital engagé à court terme. Mais donc, c'est un soin qu'on va surveiller, évaluer, réévaluer, ajuster. L'euthanasie, c'est ni plus ni moins que l'administration de la mort, administrée à une personne qui la demande. Elle est aussi soumise à tout un tas de critères. Elle est étudiée par plusieurs médecins, un comité médical, un psychiatre, etc., etc., avant d'être validée et administrée. Donc oui, on a beaucoup de patients qui confondent un petit peu les deux, beaucoup de patients qui ont entendu dire qu'en France on pratique pas l'euthanasie, mais qu'il y a certainement moyen de négocier un petit peu. C'est vrai, hein. Donc c'est notre boulot au quotidien de repréciser les dispositions de la loi actuelle sur la fin de vie. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu dans ce débat autour de cette aide active à mourir, c'est cette obsession à absolument vouloir trouver un camp pro ou anti-euthanasie. J'ai le sentiment que la réponse est dans la nuance, qu'elle n'est pas aussi évidente que ça, et que ce débat devrait nous encourager surtout à nous poser la question de la souffrance humaine. Qu'est-ce qu'on fait de la souffrance humaine ? Pourquoi aujourd'hui en France, les gens préfèrent demander la mort que vivre jusqu'au bout avec des traitements qu'on leur propose? Est-ce que finalement ça n'en dit pas long aussi sur la confiance que les gens peuvent avoir en l'hôpital aujourd'hui, l'hôpital français qui n'a pas spécialement bonne presse? Est-ce que ça n'en dit pas long aussi sur la manière dont les soignants sont formés aujourd'hui à dispenser des soins palliatifs, que ce soit les médecins, les infirmières, les aides-soignantes? Et est-ce que ça n'en dit pas long aussi sur l'accès aux soins palliatifs? Aujourd'hui, on sait qu'en France, il y a 22 départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. J'aime cette philosophie de soins, cette médecine-là, qui accompagne jusqu'au bout. Et j'aimerais qu'on lui donne les moyens de le faire davantage, plutôt que de se vautrer dans un débat qui, à mon sens, est un faux débat.
Si je vous suis, c'est que cette douleur physique, morale, en fait, découle avant tout d'une peur, et que c'est la gestion de la peur. Vous êtes un soignant rassurant.
Merci. J'essaye, en tout cas. Demander la mort, c'est contraire à la volonté humaine. Personne ne veut mourir. Je pense qu'il est intéressant, quand quelqu'un exprime cette demande de mort, de comprendre les fondements de cette demande. Et quand on essaye de gratter un petit peu, de creuser cette demande, on se rend compte qu'elle émane toujours d'une peur, effectivement, d'une peur de souffrir, d'une peur de se voir décliner, d'une peur de devenir un poids pour son entourage. Et comme je le dis souvent, je pense que répondre à cette peur par l'administration de la mort, c'est passer à côté du problème, en fait.
Toute la magie de cet album est effectivement de nous faire vivre et partager ces rencontres, ces aventures humaines dans des circonstances qui sont parfois inimaginables pour le public, et de les vivre avec vous, avec ce personnage que vous faites de vous, qui est toujours capable d'humour, de recul, de hauteur. Vous avez un côté Sherlock Holmes. Il y a besoin de chercher. Vous cherchez les indices, vous cherchez les pistes. C'est une nécessité dans ce travail, j'imagine.
Mais c'est ce qui rend ce travail passionnant, en fait. C'est qu'on peut envisager son travail à l'hôpital comme un travail à l'usine, finalement, abattre des tâches, donner des médicaments, préparer des perfusions, suivre une prescription médicale, laver des gens, les changer. C'est pas spécialement exaltant, en fait. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'aller à la rencontre de l'autre, c'est d'essayer de comprendre qui je soigne. Je prends des personnes à un moment T de leur existence, mais elles ont une vie avant, et elles ont des besoins, des envies, des aspirations. Souvent, quand elles arrivent dans mon service, elles se sentent déjà plus en vie, et mon travail, c'est d'une part, non seulement de leur rappeler que la vie est encore là, et qu'il y a des moments à investir, et d'autre part, c'est effectivement, tel un enquêteur, j'aime bien cette métaphore, de comprendre qui je soigne pour tenter de comprendre quelle corde je peux faire vibrer, comment je peux aller à la rencontre de l'autre et comment je peux aider l'autre à se remettre sur le chemin de la vie.
Vous me laissez sans voix, Xavier. Je rappelle Constellation, édition du Lombard, par L'Homme étoilé. Je dirais presque l'album parle pour lui-même, mais je ne peux qu'encourager à cette lecture. C'est un univers à découvrir, c'est un univers à comprendre. Et vous avez ce côté de guide. Vous êtes un peu le Virgile que Dante pouvait avoir choisi pour son enfer. Mais c'est très loin de l'enfer, ce que vous nous racontez.
Merci. J'ai eu peur quand même.
Non. Bon, après, il y a des choses un peu cocasses chez Dante. Mais il y en a aussi chez vous. Xavier, je vous remercie beaucoup pour ce moment partagé. Et bravo pour cet album. Bravo pour ce travail également. Je pense que c'est peut-être l'occasion ou jamais de féliciter l'engagement que vous pouvez avoir.
Mais c'est moi qui vous remercie, Nicolas.
Passez une très bonne fin de journée et bon courage, parce que l'album sort aujourd'hui même et désormais, le public s'en empare.
Merci.
Il vous échappe. Ça fait peur de voir un album à nouveau échapper. Vous commencez à avoir l'habitude, vous en avez publié quelques-uns des ouvrages.
Non, c'est très exaltant, en fait, parce que déjà, les moments qui espacent le point final que je mets au récit jusqu'à la parution de l'album sont des moments horriblement longs d'attente. Non, je suis très heureux de partager ces rencontres, de voir comment les lecteurs et les lectrices vont se les approprier. Parfois, à la table de dédicace, on vient me voir avec des réflexions très, très pertinentes. C'est très touchant de voir, oui, effectivement, comment les gens s'approprient ces récits, ce qu'ils en retiennent, ce qui les a touchés. Et comment ils en parlent. Donc non, je suis très content qu'ils n'appartiennent plus qu'à moi.
Parfait. Xavier, merci infiniment. Excellente fin de journée et bonne dédicace à venir. Belle rencontre.
Merci Nicolas, bonne journée à toi aussi.
Au revoir.